Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Rancel qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque sur des sujets divers et variés de société, mais aussi des sujets spirituels. Et cette semaine, bien évidemment, moi je voudrais qu'on commence quand même finalement. J'avais réservé ce sujet pour la fin, mais non, c'est pas possible. Le dimanche des Rameaux, qui est une fête extraordinaire, une fête pleine d'espoir finalement derrière.
Oui, d'abord les Rameaux, c'est assez beau parce que c'est le printemps quand même en ce moment-là. Oui. Le printemps a commencé. Moi, dans mon petit jardin, j'ai des jonquilles, des primes verts. Je vois que mon figuier commence à avoir plein de bourgeons. Il va être très beau. J'ai des kiwis, mais dont je m'occupe un peu, mais ils sont pas très, ils donnent rien pour l'instant. Donc, on verra cette année. Peut-être que ça fonctionne. En tout cas, c'est le signe d'une vie qui reprend. Et ça, c'est super. Les champs vont être très beaux. La Beauce va être belle. Perche aussi, etc. Les Rameaux, c'est une fête extraordinaire parce que c'est juste avant, Jésus pressent que sa passion va arriver, donc sa mort, parce que le Sanhédrin, donc le conseil des autorités juives, lui en veut terriblement depuis longtemps, des mois, même des années, puisque durant sa vie publique, il a posé des actes de guérison, par exemple le jour du Shabbat. Or, la loi dit que celui qui travaille le Shabbat sera mis à mort. Donc c'est très contre la loi ce qu'il fait, mais il préfère soigner même un jour de Shabbat que de rien faire. Il se présente aussi comme le Messie, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Et ça devient insupportable. Donc il pressent cette passion, le grondement des autorités. Et en même temps, il est entouré de tant de gens, de milliers de gens qu'il a accompagnés, qui l'ont accompagné aussi, qu'il a guéri pour une partie d'entre eux et qui veulent l'honorer. Et quand il rentre à Jérusalem avec ses apôtres pour célébrer la Pâque, il les envoie en avant. Ils vont, à sa demande, trouver un petit anon sur lequel il va pouvoir s'asseoir. Et les gens, le reconnaissant et ayant une joie tellement grande de voir Jésus de Nazareth, le Nazaréen, le Messie annoncé, arriver vers eux, qu'ils vont prendre leurs propres manteaux, les mettre par terre. Ils prennent des branchages, ils en font comme des signaux qu'ils agitent pour crier leur « Hola » au fond, un peu comme ça aujourd'hui. Et ils l'acclament, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et « Hosanna, Hosanna », ils chantent ces chants. Et donc le dimanche des Rameaux, on reprend ces chants et on célèbre cette entrée dans Jérusalem de Jésus, mais qui va, comme je l'ai dit au début, être la prémisse de ce chemin vers sa passion.
C'est un très bel office, moi c'est des souvenirs d'enfance assez merveilleux, le dimanche des Rameaux, et puis il y a ce buis qu'on...
Oui c'est ça, soit des rameaux de buis, parce qu'on a chez nous, soit des rameaux d'olivier, ça dépend un peu des cultures et des pays. C'est vrai que beaucoup, beaucoup de gens viennent, même je vois en Beauce, ou dans la campagne, on fait même des célébrations où on bénit, avec la parole de Dieu qu'on va écouter, on bénit ces buis, il n'y a pas des messes partout, mais les gens aiment revenir chez eux, avec ces quelques rameaux de buis. La tradition, c'est qu'on les attache au crucifix dans sa maison ou à une icône. Ils ne sont pas magiques, ce n'est pas des choses qu'on va agiter pour avoir je ne sais pas quel bienfait. Ils sont un signe que nous participons nous-mêmes à cette acclamation, cette adoration de Jésus-Christ et qu'on l'accompagne aussi dans ses jours. Donc, ça sera des très belles fêtes.
Qui est Jésus, Monseigneur ? C'est la question que vous posez dans votre avant-dernier message fraternel. C'est une question qu'on se pose tous, peut-être, parce que son mystère est insondable.
C'est difficile, et c'est le cœur, parce que quand on saisit qui il est, en vérité, on est attiré par lui. D'abord, il est pleinement un homme, parce qu'il est né d'une femme, Marie. Il est né comme tout enfant, après 9 mois de gestation. Il a dû être nourri au sein, être couché, lavé, protégé du froid. Donc c'est vraiment un homme. Mais nous savons par la révélation, par l'évangile, que cette femme Marie était vierge. Elle avait peut-être 14 ou 15 ans. Elle était destinée à être mariée à Joseph, avec lequel elle était déjà fiancée. Quand un ange vient la voir et lui dit « Je te salue Marie, réjouis-toi ». Et il lui dit qu'elle sera la mère d'un enfant, du Sauveur, qu'on appellera le Fils du Très-Haut. Et elle dit tout simplement, mais comment ça va se faire? Moi, je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. Elle dit, je ne connais pas d'homme. Ça veut dire que je n'ai pas de relation avec un homme sexuel. Et l'ange lui répond simplement, l'ange Gabriel lui répond, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. L'ombre, c'est un mot assez classique pour nous, l'ombre, la lumière fait de l'ombre, mais c'est aussi la nuée c'est une présence divine, notamment qu'on retrouve chez Moïse, qui marche dans le désert avec son peuple. Et donc c'est vraiment Marie qui va être enveloppée de l'Esprit de Dieu, et sa parole, la parole qu'elle a reçue, de parole de l'ange, prend en elle chair, elle vient en elle et elle donne cet enfant en elle. Ça paraît toujours étonnant, bien sûr, mais si Dieu est Dieu, il est tout-puissant. Et Dieu tout-puissant fait ce qu'il veut, par définition. Donc on ne peut pas nous-mêmes limiter Dieu à notre vue humaine. Et donc elle accueille cet enfant. Joseph, bien sûr, son fiancé, va être très déconcerté, il a confiance en elle. Et un ange lui apparaît en songe en lui disant « Prends Marie, ta femme, comme épouse. L'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. » Et tu pourras toi-même le nommer Jésus. Et le mot Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et donc Jésus est né comme un homme, dans une famille toute simple. Il sera charpentier comme son père Joseph, père donc adoptif, on peut dire, ou nourricier, mais un vrai père éducateur et très aimant, avant qu'il commence sa vie publique à l'âge de 30 ans. Et là, on découvre Jésus dans sa compassion pour les pauvres, dans son enseignement sur une vraie vie, le vrai sens d'une loi au service de l'homme, et surtout cette parole de salut qui apporte le salut à des pécheurs que nous sommes, à des gens dont le péché nous destinait à la mort, et la mort éternelle, et bien avec lui, nous aurons droit à la vie éternelle, et on reçoit cette grâce par le baptême, ouais, qui nous donne vraiment comme les prémices de la vie en Dieu et de la vie éternelle. Ouais.
Alors, dans les évangiles, on voit cheminer un homme, finalement, avec ses disciples, et puis la révélation de la divinité du Christ, qui est un très, très beau passage, c'est dans la lumière du mont Tabor. Et là,
c'est ça. C'est donc, il reste un homme, parce que oui, on le voit même fatigué devant ce coucher, on le voit pleurant à la mort de son ami Lazare, qu'il va par ailleurs après ressusciter. Donc on le voit dans son humain, il partage des repas, il va chez les gens. Donc il est vraiment, voilà, une vie qui est en plus entourée de gens qui veulent le voir de plus en plus, le toucher pour être guéri. Mais on voit aussi que dans son humilité absolue, d'abord jamais il ne répond par le renvoi, par la haine, par le refus. Il est dans l'accueil toujours. Et puis on voit sa puissance, d'une part dans les guérisons et même les résurrections qu'il opère, et elles sont très nombreuses, on a beaucoup de témoignages et beaucoup de témoins de ça, et effectivement, à quelques occasions, il va manifester sa gloire, notamment quand il va emmener Jean, Jacques et Pierre en haut d'une colline, une montagne qu'on appelle le Mont Tabor, et là, il va être glorifié, donc ils vont le voir totalement lumineux, et apparaîtront le prophète Élie et le patriarche Moïse. Jésus fait ça pour les préparer à cette passion qu'il va subir et qui va les faire totalement douter, en fait, et même craquer, ils vont fuir. Donc, il est merveilleux, quoi. Il est merveilleux. Et la vie chrétienne, c'est pas d'abord une morale, c'est pas de faire des choses, c'est de suivre Jésus, dont on devient disciple. Et le disciple, c'est quelqu'un qui écoute un maître, qui le suit et qui le sert. Donc notre vocation, c'est d'écouter Jésus-Christ dans sa parole, de le suivre, marcher avec lui, et de le servir, notamment dans les pauvres. Les pauvres, quand on sert un pauvre, on sert le Christ présent dans ce pauvre. Ouais.
Jésus, messager de paix aussi, et malgré tout, eh bien, selon le ministère de l'Intérieur, on note l'an dernier une augmentation de 5% des crimes anti-religieux en France, et en tête finalement des personnes les plus frappées, ce sont les chrétiens. 857 actes anti-chrétiens l'an dernier.
Alors, il faudrait faire le tri des choses. On pourrait, en sociologie, dire qu'il y a des catégories sociales fragilisées. La police me disait récemment, on a quand même beaucoup de gens qui sont des psys, comme on dit, ouais, des gens qui sont sous traitement psychiatrique, mais qui errent dehors, qui sont libres et qui malheureusement ne suivent pas leur traitement. Donc on n'est pas à l'abri d'un coup de folie de quelqu'un. On a aussi, bien sûr, un djihadisme musulman extrême qui est moins le fait aujourd'hui de grosses organisations, mais d'individus isolés qui peuvent sortir un couteau et faire un acte de folie. Encore une fois, ça s'est vu même dans des églises récemment. Mais plus profondément que ça, moi je pense qu'il y a un combat, parce que notre société est traversée par des courants absurdes comme le wokisme, le transhumanisme, toutes les dérives de genre qui entraînent des tas de jeunes à faire des choix qui sont inconsidérés. Comment est-ce qu'à 12 ans, on peut changer de sexe? Et il y a des pays même où on fait des opérations du corps dès l'adolescence qui vont être irréversibles. Donc, et je pense que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup l'œuvre du démon, de Satan, qui combat d'une part l'homme, la femme, parce que nous sommes à l'image de Dieu, et qui transforme cette société en influençant des tas d'idéologies perverses, sans compter la plus grande de toutes, c'est l'argent et le pouvoir de l'argent. On le voit toujours, la puissance de l'argent, le goût de l'argent, même chez des gens pas forcément très riches, mais qui tient les gens, et ça c'est bien l'œuvre du démon. Le Christ le disait, on ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Donc ce Dieu argent est aussi une puissance du maléfique qui fait du tort. Et du coup ben, les chrétiens, nous on fait ce qu'on peut, on prie, on essaie de servir les autres, on fait du bien, je pense, quand même, dans nos paroisses et auprès des gens un peu fragilisés, mais on est combattu par ça, on est combattu parce qu'on n'est pas comme les autres, quoi, parce que notre vision évangélique ne correspond pas à l'esprit du temps. Et donc, il y a des gens pour qui c'est insupportable. Et je pense qu'il y aura encore des persécutions contre les chrétiens. Oui. Même chez nous.
Monseigneur, il nous reste une petite minute. J'aurais voulu... On n'a jamais assez de temps.
À chaque fois, c'est pareil. Jamais assez de temps. Mais c'est moi qui parle trop. Je suis trop bavard.
Et je voulais dire deux mots peut-être de la visite de Xi Jinping en Russie, qui est quand même aussi inquiétante. Jinping est très prudent, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a un axe qui se forme.
Je ne suis pas polydolé, mais enfin, on sait bien que c'est encore un problème d'argent et de puissance, quoi. On veut être les plus forts, donc les plus gros muscles, donc la plus grosse armée, donc les plus grosses banques, donc le pouvoir, donc le super contrôle sur les gens. J'ai appris qu'il y avait une application Internet sur les téléphones portables en Chine qui obligerait les chrétiens qui vont à la messe à se déclarer allant à la messe avant d'y aller. Donc c'est Big Brother, quoi. Ouais. C'est Orwell. Donc tout ça, c'est des alliances pour le pouvoir et l'argent. Alors qu'on pourrait tous s'entendre pour le bien commun si les responsables politiques du monde entier, le fameux G20, voulaient que du bien, non pas que le leur, mais celui de tous, quoi. On pourrait tous s'entendre pour l'éducation, la nourriture, les loisirs, le développement, la construction, enfin bref, on pourrait tous. Le monde est fou.
Mais nous avons l'espérance chevillée au cœur.
Absolument, absolument, et nous avançons.
Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous, auditeurs et auditrices fidèles de Radio Grand Ciel. Vous retrouverez la présente émission sur notre site très prochainement, www.radiograndciel.fr. Et puis, bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos. Alléluia. Alléluia.